Bonjour à tous, bienvenue pour votre émission de sport. Si vous avez envie de réécouter cette émission en podcast sur le site de la radio, vous savez aussi que vous pouvez nous écouter sur le DAB, oui, sur le DAB+, en Haute-Vienne et en Limousin. Donc n'hésitez pas, c'est les postes nouvelle génération. Venez partager un bon moment de sport. Aujourd'hui, dans quelques instants, on va parler justement de préparation mentale. C'est un coach, il est avec nous et on en parle dans quelques secondes. Restez avec nous. Aujourd'hui, on parle de mental, et oui, de préparation mentale, mais pas que, hein. Parce que le personnage que j'ai aujourd'hui, il a une belle histoire, et il a pas mal justement d'histoires à raconter. On va vous le présenter tout de suite, c'est monsieur Jean-Christophe Bourdin qui est avec nous. Salut Jean-Christophe.
Salut Walter.
Comment ça va ?
Très très bien.
Merci d'être là.
Merci pour l'invitation.
Ben, ça fait super plaisir, on va pouvoir parler un petit peu de toi, de ton parcours. On va parler aussi de cette nouvelle, comment pourrais-je dire, de cette nouvelle branche que tu as acquis, qui est la préparation.
À mon arc.
Ouais, exactement. Voilà. Nouvelle corde à ton arc, exactement. Mais avant de parler de préparation mentale, moi je voudrais revenir un petit peu sur ton histoire. Nous on aime bien connaître un petit peu l'histoire, la genèse de l'invité qui passe par chez nous, connaître le parcours. On peut le dire, tu es un journaliste de base et tu as été aussi responsable ou directeur du service des sports du Populaire à Limoges.
À partir du moment où je pouvais pas être athlète de haut niveau, il fallait que je fasse quelque chose dans le sport.
C'est vrai, on m'a dit que tu faisais des beaux amortis à la pétanque avec tes dents, c'est vrai?
Ouais, non, mais c'était pas moyen, c'était moyen.
C'était moyen, c'était très moyen.
Donc, sport de haut niveau, pas possible, donc quelque chose en lien avec le sport, et c'était le journalisme sportif, et je me suis orienté vers ça. J'ai commencé au plus bas du plus bas, pigiste, comme
d'accord,
on dit.
Oui.
Donc,
vous faites des chroniques, des écrits, c'est ça?
Mon premier contrat, c'était 3 jours par semaine.
Trois jours par semaine?
Ouais, au journal La Montagne, à Limoges.
D'accord.
Voilà, et puis...
Comment on décide de se lancer là-dedans, d'ailleurs ?
Il y avait cette passion du sport qui me tenait au corps. Depuis tout enfant, voilà, j'étais passionné, puis pas par qu'un seul sport, plein de sports.
Ah,
sport.
Tu étais passionné par plein de sports ?
Voilà, ouais. D'accord. Le sport en général. Donc,
parce que j'ai ouï dire que tu étais un fan de boxe anglaise, un peu comme moi.
Oui, moi, mes premiers souvenirs d'enfant, c'est Jean-Claude Boutier.
Et oui.
Voilà, battu par Carlos Monzon, un chagrin d'enfant. Un chagrin d'enfance, parce que bon...
Quel combat !
Voilà.
Ah, quel combat.
Deux combats,
exactement.
Ouais. Ouais. Et c'est un des rares qui a mis Monzon sur les fesses, hein, quand même.
Ouais.
Voilà. Donc, le sport qui me tenait à cœur. Et donc, à un moment, il faut que je sois journaliste sportif, puisque c'était pour moi la seule issue de vivre de ma passion, entre guillemets, d'assouvir ma passion. Et donc, être là le bon jour.
Au bon moment.
Voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Un jour de un matin de novembre 87.
D'accord. C'était encore hier. Hein.
Voilà, il n'y a pas longtemps. En fait, je me souviens bien, puisque je devais arriver pour un stage d'observation à la montagne.
D'accord.
Et en fait, on m'a collé au service des sports et on m'a dit, t'as vu la nouvelle ? Non, Jacques Anquetil est mort. Ok, bon, donc au pays de Raymond Poulidor, Jacques Anquetil, évidemment, ça parlait au Limousin. Et donc, on m'a envoyé interviewer André Dufraisse, quelques personnes. On m'a fait écrire un papier qui a fini à la poubelle. Et on m'a fait
Tu as écrit un papier qui a fini à la poubelle
voilà.
C'est agréable, c'est agréable.
Papier, j'avais pas été vexé. Hein. Pour moi, j'étais en stage d'observation. Et quand on m'a présenté le papier du journaliste professionnel, je lui ai dit qu'il avait fait une erreur.
C'est toi qui as dit au professionnel d'accord.
Qu'il y avait une erreur dans son papier, puisqu'il parlait de Jacques Anquetil, jeune espoir en 60, et comme il avait gagné son premier tour en 57, ce n'était plus un jeune espoir en 1960.
Ouais, c'était pas possible.
Voilà. Donc il avait vérifié, il m'a dit à demain, et le lendemain, il me demandait si je voulais travailler pour eux.
D'accord.
Donc ça s'est fait comme ça.
Belle aventure.
Voilà. Et après, j'ai travaillé à France Bleu, en même temps que La Montagne. J'ai été titularisé dans le groupe Centre France, dans le nord de la Nièvre, dans un coin paumé, une sous-préfecture qui s'appelle Clamecy, où j'ai pas tenu très longtemps, en fait, parce que je m'ennuyais beaucoup. Et je suis retourné à Paris, d'où je viens à la base. Et j'ai refait de la radio, la Sud Radio, et j'ai travaillé pour un magazine de triathlon. Et j'ai fait ça pendant 6 ans.
Aujourd'hui, ton aventure à toi, ce que tu as fait depuis le début, d'arriver comme ça, lors d'un stage d'observation, ça serait plus possible aujourd'hui.
Non, aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Il faut faire les jeunes qui arrivent dans les rédactions, dans les radios, ils sortent d'école de journalisme. À l'époque, il y avait encore cette possibilité de rentrer comme ça, et j'ai plein de collègues, ils n'ont pas fait d'école de journalisme. Mais on est la dernière génération encore à travailler qui a pu éviter de faire des écoles de journalisme et apprendre sur le tas. Moi, j'ai tout appris sur le tas.
Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des journalistes en herbe qui exercent dans différentes radios locales, on va dire, et qui sont plutôt pas mauvais. Ces jeunes ces jeunes-là ont des espoirs aussi de peut-être en pouvoir en faire leur métier. Et à l'heure d'aujourd'hui, si on fait pas une école de journalisme, même en étant un acteur de terrain, si je puis dire, on a pas accès.
Alors, si déjà on fait quelque chose en lien avec le journalisme, c'est pas pareil.
D'accord.
Parce qu'il y a quand même, malgré tout, une expérience. Voilà. Moi, j'avais zéro expérience dans le journalisme. Hein. J'avais jamais écrit un article, j'avais jamais fait de stage.
Il y avait rien
du tout. Il y avait ma passion du sport. C'est tout. Mais bon, alors je savais à peu près écrire quand même, quoi. J'étais plutôt un littéraire qu'un scientifique. Bon, à la radio, c'était très compliqué au début parce que j'avais jamais fait, puis ça correspondait pas à ma nature, donc il a fallu forcer ma nature. Mais après, une fois que j'avais pris le pli de la radio, je me suis régalé à la radio à commenter les matchs en direct. Puis bon, je faisais que du sport de haut niveau, donc c'était chouette, quoi.
Ouais.
C'était chouette.
Le CSP, ça dit quelque chose.
Oui, alors après, donc, mes pérégrinations m'ont ramené à Limoges, au Populaire du Centre, où ben, je suis arrivé, revenu, entre guillemets, à Limoges en 97. Et puis, donc là, ben, j'étais journaliste
sportif,
normal.
C'est ça.
Après, j'étais adjoint au service des sports et chef du service des sports ensuite. Et
dis le directeur des services des sports du Populaire. Moi, j'aime bien le dire.
Oui, bah, si tu
j'ai le droit de le dire.
Oui,
j'ai
non,
le droit.
Mais,
moi, ça n'engage que moi, d'ailleurs.
Et donc, j'étais quand même près de plus de 15 ans au derrière du Limoges CSP, quand même.
Exactement,
donc,
au plus près même.
Plus
parce
près.
Que 93, ça dit quelque chose.
Alors, c'était ma période parisienne.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, moi, j'ai connu 88, le triplé, 88, ouais. Le premier Final Four à Saragosse en 90. Et après, je reviens. Alors, c'est pas la meilleure période. Bon, le triplé 2000 quand même.
Oui, quand même.
Pas mal.
Oui.
Et donc après, derrière, la descente aux enfers et je suis reparti tout seul. J'étais le seul journaliste, qui couvrait en National 1 quand il descend en 2004.
Oui, t'étais vraiment proche d'eux là à ce moment-là.
Ah, je faisais tous les déplacements. Hein.
D'accord.
Je faisais tous les déplacements. Donc, recommencer National 1, Pro B, Pro A, redescendre, remonter en Pro A jusqu'au titre de champion 2014-2015. Donc finalement, l'aventure était magnifique quand même.
Et je vais paraître pour un vieux con peut-être auprès de tous nos auditeurs et auditrices, mais est-ce que le journalisme c'était mieux avant ?
C'était différent.
Alors c'est mieux maintenant ?
Non. Alors moi je vais dire que c'était mieux avant parce que c'était moins aseptisé, moins protégé, moins cadenassé.
C'était plus naturel.
C'était pas une question naturelle. Et aujourd'hui, tout est dirigé, préparé, organisé. Nous, à l'époque, moi, je rentrais dans les vestiaires.
Oui, ça, c'est beau.
On rentrait dans Clairefontaine. À l'époque, il n'y avait pas Marcoussi pour les rugbyman. L'équipe de France, ils étaient au Château Ricard. On rentrait. Moi, je me suis vu. Les gars de l'équipe de France étaient à table en train de manger. Et on demandait à un gars. Le mec, pendant son repas, se levait pour venir répondre à mes questions.
Ah oui.
Donc,
ah, c'est
autant
beau.
Te dire que ça, aujourd'hui, c'est absolument impossible. Déjà, on n'est pas là quand ils mangent. On n'approche plus d'eux. Les conférences de presse, il y a l'entraîneur, un joueur choisi par l'équipe de France. Et c'est le même pour tout le monde.
Et justement, c'est ce qui fait la beauté normalement du journalisme et du journaliste, c'est d'être au plus près du sport et du sportif, normalement.
Exactement.
À la base.
Exactement. Et ça, je l'ai revécu avec
une fois que tu arrives ici.
Voilà.
D'accord.
Parce que avec le Limoges CSP, on est obligé d'être au plus près. On a des rapports deux, trois fois par semaine, parfois plus, hein, quand on partait en déplacement. J'ai vu faire des déplacements en Europe. Et puis après, on ne rentrait pas à Limoges parce qu'il y avait un match de championnat. Donc on passait deux jours à Boulogne-sur-Mer parce qu'il fallait jouer au Portel. Et puis on regagnait Limoges une semaine après, presque. Donc là, on est au contact et puis on se déplace en car avec eux. On est dans les mêmes hôtels. Donc là, on retrouve cette proximité-là. Et puis, ils nous connaissent, les joueurs, hein, parce qu'on est les seuls à les suivre au quotidien. Donc là, on a encore, même si c'est du sport de haut niveau, on a encore cette proximité et elle est super.
Aujourd'hui, le journalisme est différent. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas le même rôle. On est moins proche du sportif, on est moins proche du terrain, si je puis dire. Comment ça fonctionne à l'heure d'aujourd'hui ?
Il y a des chargés de communication, des community managers, des agents qui traînent aussi un peu partout. C'est organisé, il faut préparer. Qu'est-ce que vous voulez en interview, un tel, oui, bon, alors, attention, question, parfois. Ça existait dans les mauvaises périodes du Limoges CSP où on écoutait les questions qu'on posait et puis que ça plaisait pas. Ça n'a pas toujours été simple, hein, Limoges CSP, hein, même s'il y a eu des super résultats, super aventures et tout, ça a toujours été on parle du Marseille, du basket, c'est pas pour rien.
Ouais.
C'est pas pour rien. Donc, mais après, ben voilà, quand on se retrouve à remporter les titres en 2014 dans des ambiances fabuleuses contre Strasbourg à chaque fois, c'est extraordinaire. Et puis, ben il y a de l'émotion. Déjà la quintessence du sport, parce que c'était des finales, c'était dur, hein, c'était une grosse opposition, fallait aller gagner, c'était pas, ils se sont pas baladés, hein. Et puis, ben voilà, puis de l'émotion, puis de l'humain, quoi. Philippe Hervé, quand il est champion de France en 2015 et qu'il a la montre de son papa qui est mort, ouais, et qu'il la porte depuis le début des playoffs.
Ouais, il y a une émotion qui se crée.
Ben oui,
c'est
oui,
pas quantifiable.
Et puis, il la raconte, ouais, et puis il est là, il a la larme aux yeux. Et là, humainement, c'est super fort.
C'est
et
très,
puis,
très
et
fort.
Raconter ça, c'est super.
Ouais, exactement. On le voit dans tes yeux que tu es ému pour
ouais,
raconter ça.
Ouais,
justement.
Ouais, non, mais raconter ça, c'est génial.
Justement, comment tu débarques au Populaire du Centre, toi? C'est toi-même qui fais la démarche parce qu'il y avait un poste à ce moment-là? On vient te chercher? Comment ça fonctionne?
Ben, on vient un peu me chercher parce que, alors, on me connaissait de l'époque où j'étais à la Montagne, puisqu'on travaillait un peu.
En collaboration.
Voilà, et donc moi, je connaissais tous les gars du Populaire. Et j'avais un de mes meilleurs potes qui était là, il m'appelle, il me dit « Oula, il faut un gars au service des sports très vite ». Et le directeur de l'époque, Serge Joff, m'appelle et me dit « Il faut que tu viennes ». Ben, je dis « Quand ?» Ben,
maintenant.
Demain. Ouais. Alors, il y a eu un petit moment d'arrêt à un moment, puis bon, voilà, ça s'est fait assez vite. Mais c'était assez urgent, quoi. C'était assez urgent.
Comment ça se passe dans une rédaction? Parce qu'on ne sait pas forcément. C'est-à-dire qu'on écrit nos articles, et c'est ça. Ils sont contrôlés généralement par le directeur des sports que tu es devenu après.
Alors, ça a beaucoup évolué, là aussi, hein, à l'époque.
Ouais, je dis, c'était mieux avant, quand même.
On arrivait le matin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on met dans le journal demain? C'est à peu près ça. Aujourd'hui,
Ah oui.
Alors, voilà, et on remplissait le journal, hein. Et aujourd'hui, on a des programmations une semaine à l'avance, on sait ce qu'on va mettre dans le journal.
Ah oui, effectivement. Ah oui,
voilà, donc on sait les reportages, tout ça, donc c'est très organisé, on sait qui fait quoi, il va sur son reportage, il écrit, et puis après, bah, il y a de la relecture, évidemment, parce que c'est important, quand on écrit, on voit pas toujours tout, et puis après, bah, l'article part, et à l'impression, à Clermont-Ferrand, puisqu'on n'a plus de centre d'impression à Limoges, malheureusement. Et le journal sort.
Exactement. Tu sais quoi, on va continuer à parler un petit peu de ça et puis après on va parler de préparation mentale parce que t'es aussi là pour ça. On fait juste une petite courte pause musicale parce que c'est important et on aime la musique. Restez avec nous, on continue à parler avec Jean-Christophe Bourdin. I used to be a younger me. Middle child, I was the wildest one of three. Still got this scar here on my knee. From chasing trouble with the big kids on my street. My daddy taught me how to fight. He said, don't back down when you know that you're right. My mama taught me how to love. She said, always use your heart to rise above. And I said, oh, don't let go. Yes, I know it's a long road, but all I need is right here next to me, my family. I read my little ones to sleep, put my face right next to theirs to feel them breathe. I'm gonna show them how to dream. We'll plant a seed and watch it grow into a tree. They know I'll always be around to pick them up when they fall down. And I'll teach them the lessons taught to me. And I say, oh, don't let go of me. Don't ever leave. And yes, I know. My family, and on my dark days, my sad and broken heart days, you're all that I need. And through your worst times, together we'll be alright. You're safe here with me. Right here with me, my family. Oh, 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 oh. parle toujours de sport, on parle de journalisme dans le sport. On va parler bien sûr de préparation mentale, justement avec notre invité Jean-Christophe Bourdin qui est avec nous et qui nous accompagne pour cette émission de sport. Christophe, vite fait pour finir sur le journalisme, et très vite tu deviens directeur des sports, tu changes carrément de casquette en fait.
Oui, on devient manager à ce moment-là.
Hey.
On reste journaliste, mais on devient manager. Faut diriger une équipe, faut faire marcher une équipe ensemble.
Et c'est pas simple.
Non, parce que c'est que des égos. Et donc, il faut essayer de faire un collectif avec des égos, des individualistes.
Comment on y arrive? Comment on manage? Ça s'apprend ou
Ça s'apprend. Moi, je l'ai appris parce que c'est pas inné. Alors, on peut avoir un don, un leadership naturel, etc. Mais après, les outils, il faut les apprendre. Voilà. Et donc, moi, la première année était compliquée et je me suis formé assez vite. Et j'ai appris à faire des entretiens de carrière, enfin des entretiens annuels et des choses comme ça. Et quand je suis revenu de mon premier stage, je leur ai dit, on va faire des entretiens annuels.
Oula, oula.
Ça n'existait pas dans la boîte en plus. Ils m'ont regardé avec des yeux ronds et tout, donc j'ai organisé ça, j'ai fait ça. Un an après, ils me disaient, c'est quand que tu refais tes entretiens?
Donc, c'est magnifique.
Le management, ça s'apprend. Et ouais. Je l'ai appris. J'ai suivi beaucoup de formations à l'École supérieure du journalisme à Lille, avec mon entreprise aussi, qui a organisé pas mal de formations pour les managers. Donc, le management, ça s'apprend. Et donc, j'ai appris et c'est chouette.
Et c'est ce qui t'a aussi permis de penser à justement à cette préparation mentale, parce que tu en faisais déjà quelque part en faisant du management.
Exactement. En fait, j'ai fait un bilan de compétences et quand j'ai expliqué comment je fonctionnais, on m'a dit, mais monsieur Bourdin, là... Le coaching, vous y avez pensé? Non. Mais vous êtes fait pour ça? Ah bon?
Généralement, il faut quelqu'un pour nous débloquer un peu. Hein.
Et voilà, parce que moi, je suis arrivé au bilan de compétences. J'avais fait du journalisme pendant 30 ans. Qu'est-ce que vous savez faire? Ben, journaliste. Et puis, ben, c'est tout. Et en fait, non. Parce qu'on développe d'autres compétences, en fait. Et on s'en rend pas compte parce qu'on est dans notre environnement de travail professionnel. Et puis, ben, on est dans le quotidien. Et en fait, non. J'avais développé beaucoup de choses sans m'en rendre compte et sans le savoir. Et puis, parce que le coaching, pour moi, c'était quelque chose que je savais pas ce que c'était.
Ouais, c'était un peu abstrait, on va dire
oui,
ça comme
oui,
ça.
Voilà, puis c'est un terme où on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de choses, bonnes ou moins bonnes, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'être, parce qu'on va en parler, qu'est-ce que c'est qu'être coach mental?
Alors, coach, c'est un accompagnant en fait.
D'accord.
C'est pas un psy, c'est pas un manager.
On n'est pas docteur, on est d'accord. Non, non, voilà, non, il faut non, enlever ça. Voilà.
On fait pas la personne qui est en face de nous, qui vient voir un coach, qui dit oui, j'ai pas réglé mes problèmes d'enfance avec mon père et tout. Au revoir.
Ouais, merci.
C'est pas pour moi.
Voilà. Voilà. Non, mais que les choses soient claires.
Voilà. On n'est pas des conseillers, on n'est pas là pour donner des conseils. On n'est pas des managers, donc on n'a pas d'ordre à donner. On n'est pas des gourous, encore moins. Surtout pas. On
surtout
est des
pas.
Accompagnants.
Ouais.
On est des accompagnants.
On peut accompagner des sportifs, d'ailleurs, justement.
Bien sûr.
D'accord.
Bien sûr, parce qu'ils arrivent avec leurs doutes, avec des émotions, du stress. Et tout ça, le coaching apprend la gestion du stress. C'est une grande part du coaching. La gestion des émotions, pareil, c'est une très grande part du coaching.
Alors, c'est à ce moment-là que tu décides de te lancer là-dedans, quand la personne te dit, voilà, Jean-Christophe, vous êtes fait pour ça, vous avez un mental, vous avez voilà cette possibilité de faire de la préparation mentale. Et c'est là où tu en prends conscience et tu te dis, bah, bingo, on y va.
Voilà.
D'accord.
Donc, c'était un moment de ma vie, je me suis dit, bon, voilà, j'arrive un peu sur la fin de ma carrière quand même, parce que bon, on avance.
Il a que 35 ans.
Hein. J'aimerais bien. Donc, j'ai choisi une formation sur Paris. Beaucoup en distanciel, beaucoup en visio aussi, avec un gros pavé théorique, un mémoire à faire, des processus de coaching à mener. Enfin, donc c'était assez dense sur 8 mois, plus de 8 mois. Et donc j'ai suivi cette formation et aujourd'hui je suis coach professionnel certifié. Donc c'est-à-dire que
ça,
ma formation,
important.
Très importante, est certifiée par l'État. Elle est inscrite au répertoire national de la certification professionnelle, le RNCP. Donc c'est niveau 6, donc niveau Bac plus 4. Et voilà, c'est pas un diplôme que je sors de ma poche et que j'ai fait en 3 jours sur Internet. Moi, ça a duré 8 mois et donc terminé par un mémoire, soutenu devant un jury. Voilà, donc c'était pas de la rigolade.
Alors moi, j'ai un cobaye, hein. C'est mon réalisateur Vincent qui lui est prêt à tout essayer. Donc il a dit, si tu veux t'expérimenter sur lui, voilà, quitte à le maltraiter, à le... non mais je plaisante, hein. Moi je parle psychologiquement, bien sûr, hein, parce qu'on y tient à notre réalisateur, bien sûr. Tu parlais de mémoire. Qu'est-ce que c'est qu'un mémoire pour ceux qui ne seraient pas?
Alors,
parce que c'est quelque chose de très important, un mémoire.
Voilà, donc un mémoire, c'est un travail qu'on doit rendre.
C'est une thèse.
Voilà. Alors, non, c'est un niveau en dessous quand même.
D'accord. Hein,
c'est un niveau en dessous parce qu'une thèse, c'est quelque chose qu'on prépare sur plusieurs années en général. Donc là, le mémoire, c'est un travail qu'on doit préparer qui devait faire à minima 50 pages.
Ah, quand même.
Ouais.
D'accord.
Et puis avec des procédures super pointues, l'interlignage, le corps du texte, etc., des références à mettre. Ah bon, voilà. Donc c'est vraiment un gros boulot. Donc on choisissait, on avait un tuteur ou une tutrice qui nous aidait pendant la préparation. Donc ça, c'était bien parce qu'on était bien encadré quand même.
Uh-huh.
Et donc, voilà, moi, j'ai fait un mémoire sur les autistes Asperger.
D'accord.
Et en quoi le coaching peut-il être performant avec les autistes Asperger? Donc, j'ai fait beaucoup de recherches sur les autistes Asperger. Ça me touche personnellement puisque j'ai ma fille aînée qui a été diagnostiquée autiste Asperger. Et c'est des personnes qui ont pas de déficience intellectuelle, une intelligence différente de nous.
Est-ce que c'est vrai qu'ils réfléchissent plus vite que nous?
Ils réfléchissent différemment.
D'accord.
Ils font tout différemment.
D'accord.
Mais ils sont aussi, voire beaucoup plus intelligents parfois que nous. Leur grand souci, c'est l'interaction sociale.
D'accord.
Leur grand souci, c'est ça. Ils comprennent pas l'humour au deuxième degré. Les gens, ils peuvent avoir des atteintes sensorielles au bruit, le toucher, ça peut être compliqué, des choses comme ça. Mais c'est des gens, c'est un handicap invisible, en fait. On le voit pas.
Ouais.
Et 95% des autistes Asperger ne sont pas diagnostiqués.
Ah oui.
Oui, d'accord. 95%. Donc, j'ai rencontré des gens, ça fait 45 ans. Ah ben, j'étais diagnostiqué il y a 3 mois.
Ah oui.
Et maintenant, j'ai tout compris.
D'accord. Aujourd'hui, tu accompagnes justement ta fille aînée en étant coach.
Alors, ma fille, je lui fais des petits coachings express de temps en temps quand elle a besoin. Parce qu'en fait, un processus de coaching, ça dure une dizaine de séances. C'est pas des psychothérapies.
D'accord.
Tu
oui.
pars sur 15 ans. C'est entre 8 et 12 séances maximum. Pas plus.
D'accord.
Donc, avec un processus très, très clair, une demande, un objectif, et puis après, un travail sur les croyances, les valeurs, les émotions, les besoins, les plaisirs, avec plein d'outils pour que les gens se rendent compte par eux-mêmes, conscientisent comment ils sont, quelles sont leurs valeurs, comment ils vont réagir, et quelles sont les actions qu'ils peuvent faire.
Un sportif qui vient de voir, par exemple, qui a envie que tu le coaches mentalement, qu'est-ce que tu vas lui demander? C'est toi qui va vers lui?
Alors, déjà, si la personne n'est pas motivée, c'est pas bon.
D'accord. Voilà, donc, on l'écarte.
Voilà. Donc, la personne, si elle commence à dire, ouais, mais de toute façon, ça marchera jamais. Bon, ok, ben, c'est pas la peine de venir, on commence pas. Voilà. S'il y a une vraie motivation. Et puis, on va commencer par, notamment, un outil qui s'appelle les drivers. Et les drivers, c'est, en fait, ce qu'on est, l'identité forte, propre, notre éducation.
De nous.
Et il y en a 5. Sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais un effort, dépêche-toi. Et on est tous marqués par un de ces drivers, plus ou moins fortement.
D'accord.
Et ils sont tous bons. Il n'y en a aucun de mauvais.
Ah, d'accord.
Non, ils sont tous bons. Mais ils ont des petits inconvénients chacun. Et en fait, le but, c'est de se rendre compte de ces petits inconvénients et d'arriver à se donner des permissions par rapport à ça. Un soit parfait, il veut que toujours ça soit parfait.
Mmh.
Voilà, enfin... Alors après, avec certaines nuances de temps en temps, non, ok, là, mais t'as le droit de faire des erreurs. T'as le droit de faire des erreurs. Sois fort, mais t'as le droit de te faire aider. Voilà. Et si on n'a pas conscience de ça, ben, on fonctionne toujours sur un truc, ben voilà, mais j'ai pas besoin de toi, je vais m'en sortir. Mais si, il y a un moment, on a besoin.
Mmh.
Mais si on n'en prend pas conscience, si on ne l'a pas conscientisé...
Est-ce que c'est toi, à ce moment-là, qui lui fait prendre conscience?
Ouais. Et alors, en posant des questions, et lui, à un moment, il dit, ah ben oui, je suis comme ça. Et c'est la personne qui se dit, ah ben oui, voilà, je comprends. Et après, derrière, on la change pas. Hein. Le driver, il est bon, il faut le garder. Hein. Mais c'est ces aspects négatifs qu'il faut réussir à atténuer pour pas qu'il nous bouffe la vie.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu le mets en place aussi dans ton activité professionnelle, qui est le journalisme?
Oui, enfin moi, oui, ma façon de parler avec les gens, aujourd'hui, ouais, j'ai une façon, alors je suis toujours manager, parce que j'ai toujours une équipe à diriger au populaire, puisque je m'occupe de toute l'équipe du service web et du service photo, donc j'ai quand même des gens à manager, mais je fais différemment aujourd'hui.
Ah, voilà.
Et
c'est une autre façon.
Je parle aussi différemment, et je sais désamorcer des choses, voilà, après je vais pas me lancer dans des processus de coaching, parce que c'est pas le but, et puis voilà. Mais effectivement, ouais, ça m'a fait évoluer.
Aujourd'hui, tout à l'heure, je te parlais du sportif qui vient te voir, mais quel est le type de personne qui peut venir te voir? C'est tout type de personne?
N'importe qui.
D'accord.
N'importe qui. Ouais, pendant ma formation, j'ai coaché une personne qui était dans un travail et puis je suis bloqué, j'arrive pas à rentrer en action. Ok. J'en ai travaillé avec une autre. ouais, avec mes enfants, je m'en sors pas, je leur crie toujours dessus, mais je sais que c'est pas moi, ça m'énerve, ça me fait du mal quand je fais comme ça, mais je peux pas faire autrement, j'ai toujours été comme ça. Et elle est plus comme ça.
Oui.
Et oui. Alors que à 40 ans, elle disait, de toute façon, j'ai toujours fait comme ça, et j'ai toujours été comme ça. Mais non. Et à un moment, sa fille lui a dit, mais maman, t'es bipolaire, parce qu'elle partait en vrille, et comme
et après...
on s'était coaché, ouais, non, c'est pas bon. Hop, elle s'arrêtait. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait?
Et tu disais tout à l'heure, c'est pas plus de 10 à 12 séances, c'est
non.
ça? C'est ce que tu disais?
Ouais.
Pourquoi c'est... Voilà, après, au-delà, ça fonctionne plus?
Au-delà, c'est que par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, on n'est plus dedans.
D'accord.
Voilà. Donc, parce qu'en fait, la personne arrive avec une demande et on se fixe un objectif. Voilà. Et l'objectif de cette personne, c'était il faut que j'arrive à être plus calme avec mes enfants, que ça me bouffe moins d'énergie, que ça m'impacte moins, etc. Et d'accord, on travaille, il y a toute une palette sur laquelle on peut travailler, les émotions. Hein.
Bien sûr.
Voilà, et donc les émotions, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, quelle est l'émotion que je ressens, et l'habileté. Et après, une fois que j'ai analysé tout ça, qu'est-ce que je fais de mon émotion? Toutes les émotions sont bonnes, toutes elles sont légitimes, mais c'est ce qu'on en fait.
Voilà, c'est ce le résultat de la fin. Voilà. Qui est important.
Alors que si on n'explique pas ces mécanismes, on est dans l'émotion, on pleure, on crie ou des choses comme ça, mais on ne sait pas ce qui nous arrive. Et quand on commence à comprendre et à conscientiser tout ça, là, on ouvre des portes pour agir. Mais c'est la personne qui agit, c'est pas le coach. Hein. Le coach accompagne, encore une fois.
Tu es juste là pour l'accompagner, la pousser.
Voilà. Ouvrir des portes, faire comprendre, faire conscientiser, faire verbaliser, c'est très important de parler aussi.
Uh-huh.
Et puis, montrer que des gens, j'ai une personne qui avait une estime d'elle catastrophique. Elle sortait d'une expérience professionnelle horrible où elle avait été mise de côté, on s'occupait pas d'elle, on lui donnait pas de travail et tout. Aujourd'hui, elle est partie dans une formation d'assistante sociale. Elle s'éclate. Et la dernière séance, je lui avais dit, vous vous souvenez quand on a commencé? Ah ouais, je voulais mourir, qu'elle me dit.
Ah oui.
Ouais, elle avait un peu grossi le trait, mais elle était... et on a travaillé confiance en soi, estime de soi. Et c'est là où on se rend compte, il y a un outil qui s'appelle la ligne de vie. On fait dessiner aux gens ce qui correspond à leur vie avec des montagnes qui correspondent à des réussites.
D'accord.
Et des creux qui correspondent à des échecs. Et elle commence par un creux. Parce qu'elle avait fait des études de langue et puis ses parents lui avaient coupé les vivres. Elle avait été obligée de travailler. Et puis pour elle, c'était un creux. Alors qu'elle s'était arrachée, qu'elle avait travaillé pour payer ses études.
Mais elle n'était pas consciente.
Voilà, je lui dis, mais ça, c'est pas un creux, ça c'est une réussite. Hein. Ah bon? Ouais, oui, mais comme c'était tellement dur, et elle le voyait comme un creux. Donc c'est là aussi où le coach fait comprendre ces choses-là, et lui dit, mais non, ça c'est une réussite.
Toi, en tant que coach, une fois que cette période est passée de 10 ou, aux 12 séances, ça représente quoi pour toi? T'arrives au bout d'un processus, mais tu l'as vécu comment?
Ah c'est très gratifiant en fait, hein, parce que les résultats sont incroyables. Moi j'ai été moi-même bluffé par les résultats que j'ai eus, parce que franchement je ne m'attendais pas à la puissance de cet outil, et c'est très gratifiant. Ouais.
Bon, très bien, on finit cette émission bien sûr. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie justement de participer à tes séances?
Il y a un site internet qui s'appelle pgbcoaching.com. PGB, c'est les initiales du prénom de mes filles, Paloma, Garance, Bourdin, coaching, donc pgbcoaching.com.
Eh bien très bien, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci encore Jean-Christophe d'avoir été avec nous, puis nous on va continuer à te suivre. Merci à toutes, et puis surtout, soyez heureux.